Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Poil du X en direct de l'agence La Grande Ourse. Aujourd'hui, nous allons parler du design conversationnel, un sujet qui est au cœur des discussions en ce moment, notamment depuis l'avènement de ChatGPT. Pour ce sujet, nous accueillons dans nos locaux Desimira Manolova, UX designer researcher senior en freelance. Passionnée par les nouvelles technologies et les interactions homme-machine, Desimira a plusieurs années d'expérience en tant qu'UX dans des secteurs diversifiés, mais aussi des expériences plus ciblées dans le design conversationnel et la création de bots qu'elle a pu mettre en place au cours de plusieurs projets. Elle va donc nous présenter ce qu'est le design conversationnel et nous expliquer comment concevoir une bonne expérience conversationnelle. Bonjour Desimira, je te laisse tout d'abord te présenter.
Bonjour Juliette, merci de cette brève présentation. Effectivement, je m'appelle Desimira. Je suis UX designer avec un peu plusieurs années d'expérience maintenant. Et j'ai eu de la chance de travailler sur plusieurs projets et intéressants, et notamment des bots, chat, voice, et des bots qui ont été déployés dans d'autres pays et d'autres continents que l'Europe. Et donc, c'était une expérience assez intéressante vu que les utilisations des utilisateurs sont différentes.
Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation, Desimira. On va pouvoir commencer avec le sujet. Donc, première question, peux-tu nous expliquer ce qu'est le design conversationnel ?
Alors, le design conversationnel, c'est le design d'une interface et cette interface, c'est celle d'un bot. Donc, un peu comme dans les interfaces dites classiques, les interfaces des bots, ce sont des conversations entre la machine et l'humain. Et dans ce cas-là, cela veut dire que le designer va concevoir une conversation entre l'humain et la machine. Donc, le design conversationnel, c'est la conception des dialogues entre la machine et l'humain. Et plus ces dialogues sont naturels, plus l'expérience sera concluante. Alors, qu'est-ce qui est important dans cette conception ? C'est bien sûr d'appliquer les bonnes pratiques de l'expérience utilisateur et de tenir compte de quelques spécificités de ces interfaces qui sont celles des bots. J'aime bien raconter ces histoires parce que quand on conçoit, on ne tient pas compte, on ne se pose pas les questions. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a eu un linguiste qui s'appelle Paul Grace et qui a beaucoup étudié les conversations entre les humains. Et il a établi des principes de conversation. Donc, ces principes de conversation, il a établi 4 maximes, et qui sont le principe de qualité, de quantité, de pertinence et de manière. Alors, quand on parle entre les humains, évidemment, on ne tient pas compte, on ne se rend pas compte. Mais déjà, il arrive souvent qu'on ne se comprend pas quand on parle. Et donc, quand on conçoit des conversations avec la machine, il faut tenir un peu compte, je pense, de ces principes. Même si c'est un peu inconscient. Par exemple, si je demande à un bot quelle est la station d'essence la plus proche, et il me répond la station la plus proche est à 2 km de votre position. Ce ne sera pas la même chose s'il me dit la station la plus proche est à 2 km de votre position, mais elle est fermée en ce moment-là. Donc là, par exemple, cette réponse-là va satisfaire plus l'utilisateur parce qu'elle va lui donner une information précise du lieu, mais en plus de ça, elle va lui donner une information complémentaire qui va être concluante pour l'expérience avec le bot. Là, par exemple, la maxime de qualité qui est appliquée dans la réponse. Évidemment, quand on conçoit, on ne se pose pas tout le temps la question est-ce que j'ai bien appliqué telle ou telle maxime, mais plus les réponses du bot sont concluantes et satisfaisantes et ne laissent pas l'utilisateur évidemment dans l'impasse, mieux le produit va être adapté après. Quelle expérience le bot va procurer en concevant ces conversations?
Ok, donc c'est hyper intéressant. J'ai une question qui me vient. Quoi finalement un bot ? Je sais qu'il y a plusieurs termes. On a le terme chatbot, callbot, voicebot. Quelles sont les différences entre tous ces termes ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors, oui. Un bot, c'est une machine qui est programmée pour effectuer différentes tâches. C'est un petit robot, hein, c'est un programme, c'est un logiciel. Alors, voilà, un chatbot, ou appelé aussi agent conversationnel, est un programme informatique capable de simuler des conversations avec un ou plusieurs humains, et donc par échange vocal ou textuel. Donc, les chatbots, ce sont des petites, donc des petits programmes, des programmes avec lesquels on peut converser, mais on écrit. Les callbots, en général, ce sont des programmes qui sont intégrés dans les SAV téléphoniques, par exemple. Quand on appelle un standard, on peut tomber des fois sur des agents comme ça qui nous posent des questions et qui arrivent à reconnaître les réponses. Ils nous demandent quel est votre téléphone, ils enregistrent le téléphone, et après, par exemple, le téléphone, il est transcrit à un humain qui va pouvoir nous rappeler après. Voilà, et donc ils sont pas mal utilisés, ils marchent assez bien, les nouvelles générations des callbots, ils reconnaissent bien certaines réponses. Les voicebots, ce sont pareils, ce sont des bots qui sont un peu plus compliqués que les chatbots parce qu'ils ont une brique supplémentaire que dans les chatbots. Par exemple, dans les voicebots, la conversation, l'interface, elle est invisible. L'interface est la conversation entre la machine et l'humain, mais on n'a pas d'écrit, c'est juste la parole. Dans ce cas-là, dans la machine, il y a un système, il y a une brique dite le speech-to-text. Par exemple, cette partie-là de la machine, elle est capable d'entendre, de comprendre et de retranscrire le texte, la parole en texte, et le transmettre après au cerveau du bot que lui, il va l'analyser et éventuellement répondre. Donc, dans cette partie de VoiceBot, on a le speech-to-text et aussi le NLU, ou Natural Language Understanding. Ça, c'est le cerveau, c'est le dit cerveau des bots.
Ok.
Voilà.
Donc, par exemple, comme Siri, Alexa, Mercedes, ça va plutôt être des voice bots.
Voilà.
OK.
Voilà. D'accord. Et Watson de IBM ou Cortana de Microsoft, ce sont plutôt... Enfin, il y a les deux. Cortana, il y a les deux.
OK.
Voilà.
D'accord. Très bien. Je me demandais comment et quand mettre en place un bot lors d'un projet et quelle est sa valeur ajoutée. Comment on décide, en fait, à quel moment on se dit ici, on va avoir, ça va vraiment être intéressant d'ajouter un voice bot ou un call bot ou un chat bot. Comment ça se passe?
Alors, c'est une très bonne question. C'est une question auquel il faut, avant de déployer un bot, il faut se poser pas mal de questions. Il faut bien étudier le contexte. Il faut se poser la question, quelle sera la valeur ajoutée du bot? Est-ce qu'il est, tout en sachant qu'au début, il ne sera pas entraîné et probablement un peu déceptif pour les utilisateurs. Donc pour cela, nous, les designers, on doit s'appuyer sur la recherche utilisateur et analyser les besoins, le contexte et les comportements des utilisateurs. Et donc, c'est de cette recherche qui va découler la décision. Est-ce qu'on va mettre un bot ou pas? Par exemple, si c'est un bot pour soulager le service du SAV, ça peut être une très bonne idée. Ou bien, si c'est un bot pour raccourcir un parcours sur un site qui est très dense et les utilisateurs dépensent beaucoup de temps pour chercher une information, en posant des questions au bot, peut-être qu'il va trouver plus facilement pour eux. Après, vous allez me dire quelle est la différence avec un moteur de recherche. Et bien justement, il faut étudier les questions par rapport à un moteur de recherche, par exemple. Un bot peut être très intéressant aussi dans un espace client, parce que dans ce cas-là, la personnalisation d'un bot pourra être assez concluante et du coup, il peut répondre très précisément aux questions des utilisateurs et ça pourrait amener de satisfaction. On peut imaginer aussi des bots qui traitent des demandes récurrentes, qui sont par exemple quand les gens appellent pour les heures d'ouverture d'un magasin, s'ils ne le trouvent pas sur le site ou autre chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'il faut commencer avec un cas d'usage très simple qui sera basé évidemment sur les besoins des utilisateurs. Et petit à petit, rajouter de nouvelles intentions et tester. L'appétence, okay. Et l'utilisation. Ouais.
Donc, ça peut être soit très utile pour les équipes, en fait, comme par exemple les bots du service après-vente, où eux, ça va permettre de soulager le service, ou alors vraiment utile pour l'utilisateur directement, en lui permettant, comme tu disais, de raccourcir un parcours. Donc, je ne sais pas si par exemple, tu as des exemples de ce cas-là ou...
Oui, par exemple, chez Oui SNCF, le bot, quand on a lancé le bot, il traitait une demande qui était trouver des billets de TGV Max. Donc, il fallait, c'était un abonnement pour les jeunes. Et ça prenait beaucoup de temps pour trouver des trains qui étaient éligibles à cet abonnement. Du coup, avec le bot, c'était très facile et très rapide parce que le bot cherchait lui-même voilà, des trains et cette fonctionnalité-là n'existait pas dans le site. Donc, il était complémentaire.
D'accord. Ok, donc par exemple, il pouvait lui demander, c'était des questions très précises, ça pouvait être très général et aussi très précis.
Et voilà, on a commencé avec un cas d'usage très précis. Okay. Aujourd'hui, je pense que ce bot-là, il est assez puissant, il est entraîné et il peut répondre à pas mal de questions et surtout chercher des trains avec des prix différents. Voilà. Mais par exemple, je pense sur un bot dans une banque, par exemple, si on lui dit « dis-moi quel est mon solde », et il peut répondre, tu as 200 euros qui te restent, mais attention, si tu continues à dépenser avec le même rythme, tu seras de couvert à la fin du mois. Et donc, ce sera donc une valeur ajoutée.
Oui. Ok, oui, c'est super intéressant. En effet, c'est une autre manière d'aborder des fonctionnalités qu'on ne pourrait pas forcément intégrer dans une interface autrement, finalement.
Tout à fait, on pourrait peut-être les intégrer, mais... peut-être que ce sera un peu plus difficile et plus coûteux pour l'utilisateur d'aller les chercher et l'utiliser. Voilà, c'est ça l'intérêt d'un bot.
D'accord, ok. Donc, c'est très intéressant.
Donc, je pense que plutôt un bot doit répondre, doit être plus rapide que les interfaces, enfin que la recherche ou l'utilisation d'une interface. Donc là, il a une valeur. Donner des réponses à des questions fréquemment posées pour lesquelles les utilisateurs appellent les SAV. Ça peut être très intéressant et très valorisant et un atout pour l'adoption des bots, la personnalisation. Mm-hmm. Voilà, comme je disais tout à l'heure, dans un espace client, par exemple. Comme il peut y avoir toutes les données de l'utilisateur, et donner des réponses satisfaisantes. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur une bot qui était dans un espace client et il y avait plusieurs questions sur les factures quand les gens ne comprenaient pas à quoi correspondait telle ou telle chose dans la facture. Et ils pouvaient donner des réponses parce qu'ils étaient connectés avec différentes API. Voilà.
D'accord. Ok, donc il y a plein de cas d'usage finalement et plein de valeurs ajoutées différentes aussi. Pour les équipes ou pour les utilisateurs.
Oui.
Ok. Quelle est la méthodologie pour mettre en place les bots ? Est-ce qu'il y a des différences avec l'UX design ? Puisque tu parlais par exemple de recherche, donc ça c'est commun à la méthodologie UX. Est-ce qu'il y a des différences ? Comment ça se passe ?
Alors, dans les deux cas, donc la méthodologie, elle reste la même. Hein, c'est la méthodologie, c'est l'approche centrée utilisateur qui est la base. Mais il faut tenir compte de la technologie qui est derrière les bots et qui est un petit peu différente. Et comme je disais tout à l'heure, par exemple, dans les chatbots, l'interface, elle est toute petite. Elle est encore plus petite que dans les applications. Donc, il y a des bonnes pratiques. Dans les chatbots, comme je disais tout à l'heure, et dans les voicebots, il y a la technologie du Natural Language Process ou Natural Language Understanding, qui est le cerveau du bot quand il y a de l'intelligence artificielle et qui va entraîner petit à petit. Donc, c'est un cerveau qui va être comme un cerveau d'un petit enfant au début, et plus l'enfant va grandir, plus il va avoir des connaissances. Et il y a des bots aussi qui ne sont pas faites avec une intelligence dedans, mais qui ont un arbre de décision Dans l'école bot, il y en a pas mal aussi, dans les bots, dans les SAV, mais il y a des bots avec, dans l'école bot, il y a maintenant les nouvelles générations sont avec de l'intelligence artificielle dedans.
D'accord.
Voilà, donc la différence, comme je disais tout à l'heure, avec l'UX design, c'est qu'il faut tenir compte un petit peu de la technologie. Il faut évidemment faire de la recherche utilisateur. Il faut étudier quels sont les besoins, quel est le contexte, etc. Mais il faut aussi tenir compte comment les gens parlent, comment les utilisateurs, là où le bot va être déployé, qui ils sont, comment ils parlent, quel est leur langage, pour pouvoir parler comme eux et répondre et concevoir pour eux. Mm-hmm. Voilà. Donc, comme je le disais, concevoir une conversation, c'est en fait, dans les bots, on conçoit les réponses d'un bot. Aujourd'hui, les bots sur lesquels moi j'ai travaillé en tout cas, ne sont pas comme ChatGPT. Donc, on concevait les réponses. Et le bot était entraîné à comprendre les questions des utilisateurs. Et donc, j'ai travaillé avec un UX writer. Il y avait toute une équipe de développeurs en intelligence artificielle. Voilà. Et aussi, il y avait un nouveau métier, ingénieur cognitif, je crois que ça s'appelait, qui était une personne qui lisait les conversations pour pouvoir déceler des mots ou des ensembles de mots pour nourrir le bot, le cerveau. Lui dire tel et tel ensemble de mots, ils vont y aller dans telle catégorie. Et il faut que le bot, quand on lui demande quelle est ma dernière facture, qu'il comprenne de quoi s'agit-il. Voilà, mm-hmm. Par exemple. Donc voilà. Et puis, concernant la conception aussi, il y a des bonnes pratiques, comme je disais tout à l'heure. Les grands, Google et Amazon, ils avaient établi des guidelines. Par exemple, quand le bot il est jeune, et pas que, au bout de 2 incompréhensions, à renvoyer vers un humain, pour qu'on ne laisse pas l'utilisateur dans un impasse. Mais ça, c'est la même chose quand on conçoit en UX. Quand le bot est jeune, on recommande même que ce soit au bout de 1 incompréhension. Comme ça, il y a moins de déceptions et en même temps, on pourra nourrir le bot plus vite, plus rapidement. Il ne faut pas non plus envoyer trop d'informations aux utilisateurs. Quand il y a une question, si le bot il a compris, il ne faut pas envoyer 3 tonnes d'informations. Mais ça, c'est un petit peu les règles de la pyramide inversée sur les interfaces. Mais là, c'est encore plus court. Pour une ou deux bulles, pas plus.
D'accord.
Voilà.
Ok, très bien. Donc ça, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir du coup à tous les cas et designer le bot de telle manière à ce que ses réponses soient concises et claires et qu'en même temps, ils répondent aux besoins de l'utilisateur.
Exactement. Et ça, c'est assez difficile.
Oui, j'imagine. Sur la recherche, en fait, qu'est-ce qui diffère est-ce que je fais une recherche utilisateur classique et en fonction de ce que je récupère comme information, je comprends que je dois mettre en place un bot ? Ou alors, c'est quand je vais faire ma recherche, je sais déjà que c'est de la recherche utilisateur spécifique à l'implémentation d'un bot. Et dans ce cas-là, la recherche va être vraiment axée sur comment construire le bot ?
Dans ma pratique les bots, c'était des commandes.
OK.
Comme chaque commande, on la prend avec des pincettes et on commence à l'étudier bien pour savoir, pour challenger un peu et voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on peut faire de la recherche classique, ça m'est arrivé. Par exemple, dans la conception d'un bot qui était dans un espace client, je suis allée observer des conseillers qui répondaient aux clients. Mm-hmm. Donc, pour voir comment elles font, comment elles traitent la demande, est-ce que les gens attendent quand ils appellent, etc., etc. Et après, on a étudié toutes les conversations par chat entre un conseiller et les utilisateurs pendant toute une année. Donc ça, c'était une très grande data pour pouvoir voir quels sont les sujets qui sortent le plus souvent et auxquels on pourrait éventuellement accrocher, enfin, entraîner le bot tout au début pour qu'il soit utile à la marque et aussi aux utilisateurs. On peut aussi, il m'est arrivé aussi de faire de la recherche sur des conversations pour voir comment les phrases sont tournées dans les mails ou dans des, sur Facebook, sur les réseaux sociaux.
Ok.
Voilà.
Oui, donc c'est super intéressant. C'est vraiment, donc toi, tu as fait de la recherche. Tu savais déjà que tu devais concevoir un bot. Et du coup, tu as fait énormément de recherches sur les besoins des utilisateurs et aussi de la recherche sur comment entraîner le bot finalement sur...
Alors oui, comment oui, enfin c'était un peu imbriqué, un peu c'était un peu toute l'équipe qui se mettait à entraîner le bot parce que c'est quand même beaucoup de travail. Mais j'ai travaillé avec des linguistes qui, enfin les linguistes, eux, ils nourrissaient le cerveau.
Okay.
C'est eux qui faisaient les, on appelle ça la clusterisation. Quel mot va dans quel groupe de mots, enfin quel est le mot qui va déterminer les groupes de mots et donc on va comprendre qu'il s'agit de factures.
D'accord.
Okay. Par exemple.
Et tu disais tout à l'heure que tu avais travaillé sur des produits qui pouvaient être utilisés à l'international.
Oui.
Du coup, comment on fait dans ces cas-là pour répondre à toutes les langues? Enfin, j'imagine que du coup, il y a des linguistes en fonction des pays et des langues. Mais est-ce qu'il y a des... Même sur la manière dont le bot, le cerveau du bot, est-ce qu'il va y avoir des différences entre les pays et les langues ou pas?
Ah, alors, moi, j'ai travaillé carrément sur, sur le continent africain, où les usages ne sont pas les mêmes qu'en Europe, du téléphone tout court. Et donc, il y avait des études ethnologiques qui ont été faites, qui étaient très intéressantes, et j'ai beaucoup lu, en fait. Parce qu'en Afrique, les gens, ils utilisent les téléphones, ils font tout avec les téléphones, ils travaillent avec les téléphones, et surtout avec WhatsApp. Et Facebook, il est différent pour l'Afrique que pour l'Europe. C'est pas la même chose. Il est beaucoup plus light, etc. Donc, pareil, c'était super intéressant. Il fallait que ce soit encore plus court. Et ce bot-là, il était dans WhatsApp.
Tu as d'autres bonnes pratiques à partager sur les bots, sur comment construire un bot et comment il doit fonctionner?
Oui, les bonnes pratiques, c'est il faut qu'il se présente, il faut qu'il dise ce qu'il peut faire, quel est son périmètre. Même si les gens, quand c'est un chatbot, ils ne lisent pas trop ou ils ne tiennent pas trop compte, mais ça on le sait, de toute façon les gens ne lisent pas sur les interfaces. Donc il faut qu'ils se présentent, il faut qu'ils soient concis, il faut qu'ils soient friendly. Quand ils ne savent pas répondre, il faut le dire. S'il a des doutes, il faut proposer des réponses, de suggérer des réponses. Quand il ne sait pas, il le renvoie vers. C'est bien de renvoyer vers un conseiller, de ne pas laisser l'utilisateur dans un impasse. Et aussi, les gens, ils aiment bien quand il est drôle. Et c'est pour ça qu'on conçoit des small talk.
Ok. Ah oui, c'est super intéressant. Et comment vous faites ça
Avec le UX writer et en fonction de la charte de la marque, oui. Du client, voilà.
D'accord. Et d'ailleurs, ça prend quelle place dans la conception d'un bot, la charte de la marque?
Ça prend une grande place, bien sûr. Donc, il faut tenir compte. Mais aussi, il faut tenir compte du public. Est-ce que c'est un public jeune, moins jeune, sérieux, pas sérieux? Est-ce que tutoiement, vous voyez moins? Donc, en fait, on construit une personnalité du bot, la personnalité du bot.
OK.
Qui doit correspondre aussi et répondre aux exigences de la marque.
Oui, et ça doit être intéressant parce que j'imagine que, peut-être que je me trompe, mais qu'une marque ne sait pas forcément comment traduire leur identité sur la personnalité d'un bot ou...
Non, je pense, enfin, on travaille aussi souvent avec la com. Hein, enfin, okay. On renvoie des propositions de vouvoiement, de tutoiement ou bien quel est le tone of voice pour valider ça avec la marque, est-ce que c'est représentatif ou pas, voilà.
Ok, très bien. On a parlé beaucoup de bots qui sont jeunes et de bonnes pratiques en cas d'erreur. Et comment on fait du coup pour mesurer l'efficacité d'un bot? Est-ce qu'on peut utiliser le terme taux de réussite? Comment on fait pour savoir que c'est satisfaisant et l'améliorer du coup si on voit qu'il y a des points qui posent problème?
Alors, il faut savoir que les bots, ce sont des produits très agiles. Donc, c'est très facile d'être la mise à jour des nouvelles fonctionnalités, plutôt des nouvelles intentions et des parcours. Alors, il y a plusieurs pratiques. Donc, on peut, à la fin d'une conversation ou une séquence, demander aux utilisateurs est-ce que tu étais satisfait de la réponse. Il y a aussi la pratique avec les pouces et les likes. Donc, après qu'on peut comptabiliser. Et puis après aussi, bien sûr, on peut mesurer le taux de fréquentation, clic, etc. Okay. Ça dépend si c'est voice ou chat.
OK. Très bien. Donc, merci beaucoup. On en a déjà beaucoup appris sur la construction du bot, quelles sont les bonnes pratiques et dans quel cas l'utiliser, pourquoi et quelle est sa valeur ajoutée. Maintenant, je sais que c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, en général plus avec le côté intelligence artificielle. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus confronté à ces agents conversationnels. Selon toi, à quoi on peut s'attendre pour les années à venir? Quelle va être la place des agents conversationnels et quel sera leur fonctionnement?
Alors, certainement, c'est sûr, ça va se développer de plus en plus, ça c'est sûr. Et c'est une très bonne chose. Par exemple, on a bien vu avec l'arrivée de ChatGPT, qui était tout de suite adopté. Les différences, il n'a pas eu besoin de se présenter. On devait lui demander tout de suite quelque chose et il répondait tout de suite. Il répond tout de suite. Donc, il a cassé tous les principes, tous les bons principes de UX. Mais c'est parce qu'il était très bien entraîné. Non, le point de vigilance, ça c'est une très bonne chose. Par exemple, les voice bots, quand on peut les utiliser sans les mains, dans la voiture, quand ils sont bien entraînés, vous imaginez la valeur ajoutée que ça pourrait avoir. Voilà. Mais voilà, il y a toujours un mais. Le point où on doit y aller vraiment avec prudence, c'est l'éthique. Donc jusqu'à où, quelle est l'éthique dans tout cela? Quelles sont les règles que nous devons mettre? Bon, on en parle beaucoup en ce moment sur le ChatGPT. Il a été arrêté en Italie. Il y a une pétition qui a été signée même par Elon Musk et des grosses pointures de l'intelligence artificielle. Cette pétition, c'est pour arrêter ChatGPT pendant 6 mois, pendant qu'on met des règles, car ChatGPT, malheureusement, a été utilisé par des voyous, par des gens malveillants. On peut utiliser les données personnelles. Quelle est la protection de ces données-là? Il y a eu pas mal de fraudes, en fait, apparemment. Okay. Et aussi, j'ai entendu parler qu'il y a Europol, donc c'est la police européenne, qui enquête sur certaines malfaiteurs sur ChatGPT. Donc en France, c'est pour parler, même si c'est un outil superbe, hein, parce oui. qu'on peut lui demander des programmes malveillants, il peut les fabriquer, on peut prendre les codes, en fait, je pense que les chercheurs, ça se développe beaucoup plus vite que prévu.
Oui.
L'intelligence. Ainsi, la question qui se pose, c'est avec les outils comme Midjourney et DALL-E, il y a eu des images utilisées par la presse qui commencent à faire un peu, pas scandale, mais des questionnements. Pourquoi ces images-là, même s'il y a eu la référence en dessous qui a été écrite, à qui appartiennent les images, comment on peut les utiliser, quel type d'image on doit fabriquer pour la diffusion. Donc, ce n'est pas qu'avec les chatbots, mais c'est avec toutes sortes d'intelligence artificielle. Donc, il faut poser vraiment les règles. Voilà. La CNIL, qui a édité un livre blanc en 2020 sur les agents conversationnels en France, donc pour un petit peu stopper les règles. Et puis, tout au début aussi, il y avait, je donne cet exemple-là, qui date un peu maintenant, mais c'est intéressant, quand au lancement d'Alexa, Il y a eu Alexa qui était témoin à un meurtre aux États-Unis. En fait, Alexa, elle entend donc le fameux speech to text. Donc, elle enregistre les conversations pour qu'ils soient après analysés dans le but d'améliorer le cerveau d'Alexa. Et donc, la Cour suprême, la Cour, elle a demandé cet enregistrement-là et Amazon a refusé. Et donc là, il y avait pas pareil, c'était débat. Est-ce que cet enregistrement doit être donné ou pas, etc., etc. Donc jusqu'à où on doit aller?
Oui, effectivement, c'est pas évident. Ça, comme tu disais, ça va très vite. Par exemple, si on reprend ChatGPT, ça a été très vite adopté. Et finalement, avant même de bien pouvoir comprendre comment ça fonctionne, que tout le monde en comprenne un petit peu tous les tenants et les aboutissants, on peut déjà faire plein de choses avant même que ce soit régulé. Donc oui, j'imagine que c'est des questions qu'il faut se poser et ça fait presque un petit peu peur parfois parce qu'on ne sait pas trop où ça va aller. Donc je ne sais pas toi ce que tu en penses, par exemple, du fait de stopper pendant quelques mois
De stopper pendant quelques mois et de mettre des règles, je pense, ou un minimum des règles, ou stopper les données. Pareil, j'ai vu que l'utilisation à des enfants de moins de 13 ans est interdite, mais on ne peut pas savoir.
Oui.
C'est ça.
OK.
Ouais. Et aussi, jusqu'où on doit aller avec l'adoption de cette intelligence artificielle, un peu comme dans le film Her. Si vous l'avez vu.
Oui, ouais. Si. Mais je ne sais plus exactement ce qui se passe. Il me semble que c'est une intelligence artificielle et un homme qui tombe amoureux.
Eh oui, okay. C'est l'homme qui tombe amoureux.
Oui, plutôt.
Ouais, et du coup, il devient un peu dépendant d'elle.
OK. Et c'est notamment des questions autour de la personnalité de l'intelligence artificielle.
Tout
et
à fait. Ouais.
Et la personnalisation aussi, il me semble, parce qu'elle est... Il me semble que dans le film, elle est très personnalisée en fonction
elle est, voilà, elle est très personnalisée, elle ressemble beaucoup à son ex-femme. Et, okay. Et il est très seul, et elle est très chaleureuse et il tombe amoureux d'elle.
Ok. Effectivement, c'est des... ce qui est bien, c'est que je trouve qu'on en parle quand même de tout ça. Mais c'est des questions qui se posent sur l'éthique et auxquelles... Il va falloir apporter des réponses, en tout cas un minimum.
En tout cas, il y a des gens qui, un peu partout dans le monde, qui se réunissent autour de ces problématiques. Par exemple, le Partnership on AI, c'est un organisme qui a été créé par Google, DeepMind, Facebook, IBM, Amazon, les plus gros, pour encourager les bonnes pratiques et améliorer la compréhension du public sur l'intelligence artificielle. Donc, en France, on a le CNIL, et donc, je pense, enfin, j'ai bon espoir.
Oui, ben c'est sûr. Pour la conception d'agents conversationnels, finalement, on risque de... Enfin, en tout cas, là, si on reprend l'exemple de ChatGPT avec l'intelligence artificielle, on risque de se confronter à de nouvelles bonnes pratiques ou des nouvelles règles pour... Enfin, du coup, qu'on va devoir prendre en compte dans la conception des agents conversationnels.
Alors, j'ai demandé au ChatGPT qui écrit... ses réponses, il a fait. Et il m'a répondu que c'est lui-même, c'est son intelligence. Donc je pense que peut-être, malheureusement, on n'aura pas besoin des UX et des UX writers qui vont écrire les conversations si l'intelligence se développe comme ça. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle, elle n'est pas encore sûre à 100%. C'est de la prédictibilité et cette prédictibilité, elle va jusqu'à 80%. Et elle a besoin de se nourrir. Mmh. Et du coup, bah, dans la conception, on aura toujours besoin des UX.
OK.
Pour des produits avec de l'intelligence artificielle.
Très bien. Du coup, nous arrivons à la fin du podcast. Merci beaucoup, Décimira, pour le temps que tu nous as consacré, pour cet échange et ton expertise. En tout cas, j'ai hâte de voir comment tous ces produits conversationnels vont évoluer. On voit que les choses bougent vite et qu'il faut rester alerte des nouveautés, des nouvelles réglementations et surtout des nouveaux usages. En tout cas, nous avons pu comprendre plusieurs aspects du design conversationnel grâce à ton expérience et c'était très intéressant. Merci à vous, auditeurs, d'avoir écouté cet épisode d'Un Poil du Vix.
Merci, la grande ours, Juliette.